Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Belinda Bosuma à la présentation.
Le chef de l'État est attendu ce mercredi à Kisangani. Il s'agit de sa première visite officielle depuis sa réélection. La population de la Tchopo attend beaucoup de cette visite du président Félix-Antoine Tshisekedi. Réorganisation des élections législatives nationales et provinciales à Massimanimba dans le Kwilu. La CENI invite la population locale à faire en sorte que ces scrutins du 15 décembre soient transparents et crédibles. Appel du deuxième vice-président de la CENI en séjour sur place pour préparer ces scrutins. Et puis, Nord Kivu, il s'observe un besoin criant des intrants de soins intimes pour les femmes et filles déplacées vivant dans les camps. Du coup, ces femmes sont exposées à des maladies et infections génitales chroniques avec beaucoup de conséquences. Pour en parler, nous recevons Nathalie Mouchinia, animatrice communautaire. Madame, Messieurs, bonjour. Le chef de l'État est attendu cet avant-midi à Kisangani, dans la province de la Tchopo. Félix-Antoine Tshisekedi effectue sa première visite officielle au chef-lieu de la Tchopo depuis sa réélection en décembre 2023. Son adresse à la population est très attendue par cette dernière. Qu'attend-elle concrètement de sa présence dans cette ville? Quelques-uns se sont exprimés au micro de Jacques Nkonkolé.
C'est tout d'abord la réhabilitation et la modernisation de la route nationale numéro 4. Vous savez, c'est une voie qui permet à la province de s'approvisionner en produits de première nécessité. Autre attente que nous avons, c'est important quand même, la ville de Kisangani a vécu ce que nous appelons, a subi les conséquences de ce que nous appelons les conflits intercommunautaires entre Mboli et Lingola. Qu'une table ronde puisse évidemment s'éteindre pour qu'on arrive à établir les responsabilités.
Nous, les élus locaux, ce que nous pouvons demander au chef de l'État, lui qui est le garant du bon fonctionnement des institutions et le champion de développement à la base, l'organisation des élections de bourgmestres et bourgmestres.
Bon, moi d'abord en tant qu'habitant de Kisangani, je suis d'abord content d'apprendre l'arrivée du chef de l'État et ce que je lui demanderai, c'est de restaurer l'électricité dans la ville de Kisangani et aussi l'approvisionnement des tuyaux pouvant propager de l'eau potable dans notre ville. En tant qu'enseignant, c'est voir aussi songer, s'impliquer pour payer correctement les enseignants.
Entre-temps, ici à Kinshasa, le président de la République a eu une séance de travail hier à la Cité de l'Union africaine avec les responsables du secteur judiciaire. Il s'agit des membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, conduit par Dieudonné Kamouleta, président de cette institution et président de la Cour constitutionnelle, ainsi que du ministre de la Justice, Constant Mutamba. Selon Dieudonné Kamouleta, l'objet de cette rencontre était d'échanger sur différents points dans le domaine de la justice, dans l'objectif d'améliorer l'administration de ce secteur. D'après le ministre de la Justice, le chef de l'État a donné des orientations et instructions précises pour améliorer la manière d'administrer la justice au profit de la population. Et selon la presse présidentielle, cette réunion de plus de 3 heures du temps a aussi abordé la question des réformes dans le domaine de la justice envisagées par le chef de l'État. Rendons-nous au Kwilu. Le député provincial Paulin Kiankai demande la présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à Kikwite pour lancer le courant électrique à partir du barrage hydroélectrique de Kakobola. Cela pour couper court aux doutes qui règnent dans le chef de la population de Kikwite qui avait déjà vu les ampoules s'allumer il y a plusieurs semaines dans le cadre des essais techniques et qui finalement ne voit plus rien. Cependant, les services affirment que l'énergie de Kakobola est déjà dans cette ville. Pour l'élu de Kikwite, l'électrification de cette partie du pays va booster son développement dans différents secteurs, dont celui de la santé. On écoute le député provincial Paulin Kiankai au micro de Irène Boma.
Sans courant, il n'y a pas de développement. Depuis que nous sommes nés, on parlait du courant de Kakobola, mais on n'a jamais vu un seul iota électrique dans ce sens-là. Maintenant, là, l'on dit que le courant est à Kikwite. Ça crée une cacophonie, un doute méthodique dans les chefs de la population. Ici, nous sommes à l'hôpital clinique Yankai Yabé Tomosi. Nous avons des appareils du genre radiographie, ECG. Nous avons une couveuse qui n'a jamais fonctionné. Et nous voulons installer un scanner et beaucoup d'autres appareils. appareils, mais qui demandent vraiment une dose électrique. Malencontreusement, il n'y a pas de courant qui quitte. Ce que nous voulons, c'est que le président de la République vienne d'abord inaugurer pour éclipser, pour écarter ces doutes méthodiques, ces placebos, ces mensonges au carré. Que les ministres de l'hydrocarbure, énergie, viennent aussi visiter à quel stade nous sommes avec cette évolution du courant de Kakobola. La disposition des câbles et des poteaux ne sera qu'un annexe, un addendum. Mais le prime moving, l'initial, c'est de voir d'abord le président de la République qui vienne rincer l'œil sur ce qui se passe. Est-ce que le courant est effectivement circuit ou pas?
Et puis, relance des projets d'infrastructures urgents en RDC. Le gouvernement confirme le décaissement des fonds de plus de 160 millions de dollars américains pour ce mois d'octobre. Les fonds sont affectés notamment au programme de développement local des 145 territoires, au projet d'infrastructures et voiries en province et au projet de développement des infrastructures de la ville de Kinshasa. L'annonce a été faite par le ministre congolais des Finances au cours du Conseil des ministres de vendredi 18 octobre 2024. Emmanuel Elamegi nous en parle.
D'abord, pour la clôture de la première phase du programme de développement local de 145 territoires et autres infrastructures en province, c'est plus de 59 729 000 dollars qui ont été payés aux agences d'exécution, notamment le BESECO a reçu plus de 24 732 000 dollars pour 181 ouvrages, CFF a reçu 7 645 000 dollars américains pour 635 ouvrages et le PNUD a reçu plus de 27 352 000 dollars américains. 5 provinces de la RDC bénéficient des fonds pour leurs infrastructures respectives. C'est notamment la Tchopo, 17 millions de dollars pour plus de 33 kilomètres de voirie, le Kasaï Central à Kananga, 17 millions de dollars pour 41 kilomètres de voirie urbaine, l'Ituri avec 13 millions de dollars. Pour la ville-province de Kinshasa, 25 millions de dollars débloqués pour la voirie et la lutte contre les érosions. Également, il a été effectué le versement du deuxième acompte du projet Kinshasa Arena pour 45 millions de dollars américains.
Rendons-nous dans le territoire de Beni, au nord Kivu. Les écoles primaires de Kasoko, Mabatoudou et Wakalire, situées dans la commune rurale d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni, viennent chacune de bénéficier des nouveaux bâtiments, comprenant 6 salles de classe, un bâtiment administratif et 6 latrines. La cérémonie de remise a eu lieu hier. Les travaux de construction ont été financés par un élu local dans le but d'améliorer les conditions d'études des élèves, composés majoritairement des déplacés. Thierry Kamabale, directeur de l'école primaire de Wakalire, l'une des écoles bénéficiaires, évoque ici l'importance de ces infrastructures. Il est joint par Guylaine Kassassia.
Je suis adjoint parce que une fois dans l'histoire que je vois et je reçois une belle construction comme celle-ci depuis que j'ai été affecté dans cette école. Surtout au sénateur qui s'est bien donné corps et âme. Et cela me vient comme une manette qui tombe du ciel. Il vient de me construire 6 salles de classe, 6 lunettes de latrine avec un puits d'eau et avec des bancs, en tout cas bien sophistiqués. En tout cas, ça devient maintenant une école parmi les écoles du gouvernement et que Dieu lui protège. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce qu'il a fait pour la population de Tenambo, nous louons et nous les remercions grandement. C'est un bel jeu parce que les enfants qui étudiaient ici, en tout cas, vivaient très mal. Et surtout que nous avons les enfants déplacés de guerre, les orphelins, des massacres. La situation des salles de classe, en tout cas, nous mettait mal à l'aise. Aujourd'hui, les enfants vont se sentir à l'aise.
En Ituri, par contre, plus de 1600 élèves, en majorité des enfants du site des déplacés de l'ISP Bounia, étudient dans des conditions difficiles dans la seule école à la périphérie de la ville de Bounia. Ces élèves qui parcourent 5 kilomètres chaque jour à pied n'ont ni fourniture scolaire, ni cahier, ni stylo, moins encore d'uniforme. Les responsables de cette école lancent un appel pour la prise en charge de ces écoliers victimes des conflits armés en Ituri. Ezekiel Mouzali a nous fait le point.
C'est un véritable calvaire que vivent les élèves du primaire du site des déplacés de l'ISP Bounia qui étudient au complexe scolaire Sagesse Kabazo, une école privée à la périphérie du centre-ville. Chaque jour autour de 9h30 ou 10h, ces élèves se préparent pour emprunter le chemin de l'école à pied après avoir réalisé des tâches ménagères pour aider leurs parents. Un exercice difficile confie la plupart, entre autres ceux dont les parents n'ont pas de moyens.
Pourquoi on a un uniforme? Nous sommes en bas.
Nous avons beaucoup de difficultés ici. Pas d'uniforme, nous n'avons pas de chaussures, nous ne savons quoi faire. Aussi, nous étudions très loin de la ville. Des fois, nous partons à l'école la famille. Nous n'avons pas de nourriture. Certains de nos amis partent en ville pour commander. D'autres sont kidnappés.
Le responsable de cette école indique que cette situation expose de nombreux enfants au risque d'accidents, de noyades ou même de kidnapping. Jean de Dieu Bahati appelle les personnes de bonne volonté à leur venir en aide pour permettre à ces enfants d'étudier aussi dans de bonnes conditions.
Les enfants des premières années, deuxièmes années primaires, c'est difficile qu'ils accèdent là-bas suite à des accidents, des circulations. Ces petits enfants d'ailleurs se perdent aussi souvent.
Plus de 1340 enfants quittent les sites chaque jour pour se rendre à l'école. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Dans l'actualité aussi, réorganisation des élections législatives nationales et provinciales dans le territoire de Massimanimba, province du Kwilu. La CENI invite la population locale à faire en sorte que ces scrutins qui auront lieu le 15 décembre prochain soient transparents et crédibles. Ceci permettra de donner à la province du Kwilu ses sénateurs et son gouvernement provincial. Appel de Didi Manaralinga, vice-président de la CENI, qui s'est rendu sur place pour évaluer la situation avec les autorités locales. Didi Manaralinga est au micro de Irène Boma.
Mais je vous signale que les cartographes qui seront dans pratiquement tous nos villages seront ici pendant un peu plus longtemps parce que nous voulons faire la mise à jour de notre cartographie pour redéfinir les sites de vote pour voir si au niveau de ces bureaux de vote, si tous ces bâtiments que nous avons utilisés au mois de décembre passé, si tous ces bâtiments peuvent encore une fois recevoir les élections à venir. Essayer d'aider la République, aider la CENI, aider Massimanimba qui souffre pour le moment, parce que Massimanimba n'a pas d'élus là, que ce soit au niveau national ou provincial. À cause de Massimanimba, toute la province du Kwilu n'a pas de sénateurs. À cause de Massimanimba, toute la province du Kwilu, au niveau du Sénat, n'a pas de membres, comme dans les groupes parlementaires, dans les commissions permanentes, même au niveau national, parce qu'il n'y a pas d'élus. Vous n'avez pas de gouverneur et de vice-gouverneur. Ceux qui sont là sont en train d'expédier les affaires courantes. Ce n'est pas normal pour toute une province, à cause d'une seule circonscription. Donc, essayons vraiment de regarder de l'avant et de faire en sorte que ces élections soient une réussite.
Trois mois après l'interdiction d'importation de bières et boissons gazeuses sur toute l'étendue du pays par le ministre du Commerce extérieur, cette mesure visant à promouvoir la production locale souffre dans son application en Ituri, dans les territoires d'Arumagi et les centres commerciaux de Kaseni-Chomia, aux frontières avec l'Ouganda. Des produits frappés par cette décision continuent à inonder des marchés de consommation, même constat à Bunia. Qu'est-ce qui explique la non-application de cette mesure? Martial Kiza s'est penché sur le dossier reportage.
Nous sommes au marché central de Bunia. Des bières et boissons gazeuses à provenance de l'Ouganda inondent boutiques et magasins. Ces produits importés sont vendus avec toute quiétude. Situation similaire à Aru, Mahagi, Kaseni et Chomia, les entités frontalières avec l'Ouganda où des produits brassicoles produits localement n'arrivent presque pas. La Fédération des entreprises du Congo, section de l'Ituri, attribue cette situation à l'absence des industries locales et la léthargie dans l'application de cet arrêté du ministre aux frontières par les services habilités. Son président, Loné Mamoukoua.
Créer des usines de boissons sur place ici chez nous, ça pouvait aussi beaucoup nous aider au lieu d'être toujours dans l'importation.
Conscient de la situation, le chef de division du commerce extérieur, Annie Touri, dit avoir déjà communiqué aux services habilités à la douane pour l'exécution stricte de l'arrêté de Julien Paloukou.
Services installés à la frontière sont censés mettre en application cette mesure.
Entre-temps, certains opérateurs économiques des Mahagi sollicitent une dérogation de la part des ministres des Commerces extérieurs pour la bonne application de cette mesure. Bunia, Martial Kiza, Biamungu, Radio Okapi.
Et puis, notez que la ville de Goma a connu un autre cas de braquage en plein jour hier autour de 9h locales. Des bandits armés ont fait incursion dans un shop de transfert d'argent dans les environs du rond-point Seniors. La propriétaire du shop qui a donné l'alerte a trouvé son employé ligoté et inconscient. Les malfrats dont l'identité est inconnue auraient emporté de l'argent et plusieurs téléphones portables. L'employé torturé a été transporté d'urgence dans un centre médical.
Actualité internationale.
Nous sommes en Tunisie. Le président Kais Saied investit pour un second mandat, ce à la suite d'une répression de plusieurs mois et d'une série d'arrestations contre ses opposants politiques. Quelques semaines après avoir été réélu avec 90,7% des voix, le président de la Tunisie, 66 ans, a appelé dans son discours d'investiture à une révolution culturelle pour lutter contre le chômage, le terrorisme et la corruption.
L'invité.
Nous sommes au Nord Kivu. Il s'observe un besoin criant des intrants des soins intimes pour les femmes et filles déplacées, vivant dans les camps et dépourvues de tout. Par manque d'hygiène adéquate, ces femmes sont exposées à des maladies et infections génitales chroniques avec beaucoup de conséquences. Pour en parler, nous recevons Nathalie Mouchinia, animatrice communautaire et encadreuse des enfants. Sifamagourou l'a rencontrée récemment avec un groupe de bénévoles en pleine séance de sensibilisation des déplacés sur l'hygiène corporelle et menstruelle. Suivez leur entretien.
Bonjour mademoiselle.
Bonjour madame.
Alors ici nous sommes au site des déplacés à Kanyaruchinya. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui?
Nous avons eu une séance de sensibilisation de femmes et aux filles déplacées de guerre sur l'hygiène menstruelle et l'hygiène corporelle.
Et pourquoi cette sensibilisation? Est-ce qu'il y a un besoin? Est-ce qu'il y a un problème que vous avez constaté ici?
Nous avons constaté qu'il y a un manque d'abord d'information, que les filles et les femmes déplacées n'étaient pas informées sur c'est quoi l'hygiène et pourquoi on doit faire l'hygiène menstruelle. Alors nous nous sommes dit de venir et d'en discuter un peu avec elle, mais nous avons eu à identifier quelques problèmes, notamment la manque d'eau. Ici, il n'y a pas de l'eau potable et tellement que la propriété est basée vraiment sur avoir de l'eau. On ne peut pas être propre pendant qu'on n'a pas de l'eau à se laver les mains ou de l'eau à lessiver ses habits. Alors, il y a vraiment un grand problème et ce grand problème, c'est le manque d'eau. Il y a également un besoin que nous avons eu à identifier. Le besoin en est que il n'y a pas vraiment, et les femmes n'ont pas beaucoup de bandes hygiéniques lavables et des sous-vêtements. Alors, c'est là cause problème. Lorsque nous parlons de l'hygiène menstruelle, nous voyons la présence des sous-vêtements, la présence également des bandes hygiéniques. Mais lorsqu'on n'en a pas, on ne sait pas comment se comporter vis-à-vis à cela.
Et lors des échanges, quelles sont les grandes informations, les notions que vous leur avez donné sur la propreté de la femme ou de l'hygiène menstruelle?
Voilà, au départ, nous leur avons montré comment d'abord porter les bandes hygiéniques. À part ça, nous leur avons montré comment faire son bain intime. À part ça, nous leur avons demandé de toujours épiler les épaules et leur partie génitale parce que les poils pubiens gardent toujours de la saleté et de toujours se laver à chaque instant lorsqu'ils sont pendant les règles. Et juste après les règles, ils peuvent également, si possible, ils peuvent dormir sans sous-vêtements ou carrément, ils peuvent dormir avec sous-vêtements, que ce ne soit pas un sous-vêtement en coton pour...
Vous venez souvent dans les camps de déplacés. Vous voyez leurs conditions de vie, là où les déplacés passent la nuit. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'observer toutes ces mesures, tous ces conseils-là que vous avez donnés dans les conditions où vivent ces femmes?
Ouais, nous espérons que ça peut être possible si jamais on disponibilise de l'eau et si jamais on disponibilise les sous-vêtements et les bandes hygiéniques. Et qu'il y ait également la propriété des toilettes, la propriété également de leur environnement. Parce que non seulement nous sommes affectés par la non-propriété de nos habits ou de nos mains sales, mais également notre environnement peut faire à ce que nous tombons malades.
Et vous, en tant qu'animatrice, vous échangez souvent avec elles, ouais. Vous comprenez bien le problème que rencontrent les femmes sur ces plans-là. Quel plaidoyer pouvez-vous faire? Est-ce que quand les gens viennent intervenir, quand les gens viennent les assister, beaucoup de gens pensent à ça, aux soins intimes et tous les besoins intimes des femmes?
Je demanderai à toutes ces personnes qui viennent et qui apportent de l'aide dans les camps des déplacés de toujours identifier les besoins. Parce qu'au départ, on peut penser avoir apporté une solution, alors que c'est la solution qui avait été donnée. Alors, c'est mieux et c'est très bien d'identifier les besoins. Et les besoins que nous avons eu à identifier, c'est l'accès, comme je l'ai dit encore et je le répète, l'accès à l'eau potable et l'accès aux bandes hygiéniques et aux sous-vêtements. À toutes ces personnes qui peuvent avoir un ballon ou 5 ou 10 sous-vêtements, quelques cotex, quelques bandes hygiéniques réutilisables ou non réutilisables, qu'il soit et qu'elle soit la bienvenue, cette personne.
Merci.
Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.